John Galianos est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. Le 2 août 1978, France Caron est retrouvée morte chez elle. Son mari, Patrice Nadeau, est le principal suspect des policiers, mais sa condamnation est loin d'être assurée.
Nous n'avions pas d'aveu. Nous n'avions pas d'arme du crime. Donc, nous ne pouvions pas l'accuser et le mettre en état d'arrestation.
L'homme collabore avec les enquêteurs et accepte de passer le test polygraphique au bureau de John Galianos.
Très crédible. Parle, puis content d'être là. Un petit peu trop content encore.
Possible qu'il n'y ait rien à voir avec la mort de son épouse. Ou bien, il a pris la décision de faire des aveux.
À la fin des années 70, John Galianos est polygraphiste depuis à peine 2 ans lorsqu'il reçoit un appel de la police de Québec.
Les enquêteurs ont communiqué avec moi, m'informer qu'il y avait une invasion de domicile et que Mme France Coronado, âgée de 25 ans, avait été assassinée.
Les tragiques événements se sont produits le 2 août 1978. L'un des enquêteurs au dossier est Gaston Chalifour.
On a reçu un appel des enquêteurs du poste de Québec Métro qui était devant un homicide à Sainte-Brigitte-de-Laval.
Ce jour-là, Patrice Nadeau est au travail chez l'imprimeur Mirabeau à Ville-Vanier. Pendant la pause, l'homme dans la vingtaine planifie des vacances à la mer avec un collègue.
Lors du break du café, il a dit « Tiens, je vais appeler France. Je vais lui demander ce qu'elle pense. Elle peut se libérer à ce moment-là. »
Quand il appelle chez lui, ce n'est pas son épouse qui lui répond, mais son fils David, âgé de 3 ans. Au bout du fil, le bambin répète des mots inquiétants.
Il a dit « maman morte, arrête de niaiser, passe-moi maman ».
Patrice Nadeau sermonne d'abord l'enfant, puis il commence à prendre peur.
Et là, à ce moment-là, il a paniqué, puis il a parlé avec son confrère. « viens, il y a quelque chose qui va pas ».
Après avoir téléphoné au service d'urgence, les deux hommes quittent rapidement les lieux et foncent vers la résidence de Patrice Nadeau. Un policier arrive sur place en premier. Il est accueilli par le fils du couple qui tient dans ses bras sa jeune sœur de 7 mois. En inspectant la maison, il découvre le corps inerte de France Caron au pied de l'escalier du sous-sol.
Le corps a été transporté à la morgue provinciale du Québec, où le pathologiste, le docteur Richard Rautier, pratiquait une autopsie. Il en est venu à la conclusion que la victime avait reçu 2 coups de couteau mortels, un au foie et l'autre au poumon.
Les policiers remarquent quelque chose de suspect. Un coffre-fort semble avoir été déplacé. Ils viennent peut-être de découvrir le mobile du crime.
Il y avait un coffre-fort d'une forme plutôt carrée, mesurant environ comme hauteur 70 cm. Il ne semblait pas être éventré. Pour nous, devant cette présence-là, on a opté pour une thèse d'une tentative de vol par effraction d'un coffre-fort.
Malgré les signes d'un cambriolage, les policiers ne trouvent aucune trace d'entrée par effraction. Plusieurs autres éléments ne cadrent pas avec le scénario d'une invasion de domicile.
Les gens n'étaient pas connus comme étant des trafiquants de drogue ou des gens qui vivaient dans l'opulence ou des choses comme ça. En plus, il y avait un véhicule de stationné dans le cours. Fait que ça indique qu'il y a peut-être plus qu'une personne à l'intérieur.
Ce même avant-midi, Patrice Nadeau est conduit au bureau de la Sûreté du Québec pour répondre aux questions des policiers. Il collabore pleinement, leur donnant sa version des faits.
Patrice Nadeau nous explique que ce matin-là, il a quitté le domicile vers 7h30 pour se rendre à son travail, qui est situé environ à 30 km.
Cela signifie que le crime a été commis entre 7h30 et 9h30, heure à laquelle Nadeau avait téléphoné à sa femme. Les enquêteurs sont perplexes.
À 8h30 le matin, les éléments négatifs de la société, ils dorment à cette heure-là. Parce que ces gens-là œuvrent surtout le soir. Fait qu'à 8h30 le matin, ils dorment, ils se lèvent vers midi à 1h, puis là, ils commencent à faire leur tournée.
L'enquêteur Gaston Chalifour interroge ensuite Patrice Nadeau sur le coffre-fort déplacé. Ce dernier prétend qu'il contient une précieuse collection de timbres d'une valeur de 100 000 $.
Il devenait important à ce moment-là de faire évaluer le coffre-fort. Alors, deux de mes enquêteurs sont rendus rencontrer des spécialistes dans le domaine. Et après une expertise très poussée, ceux-ci sont arrivés à la conclusion que la valeur du coffre-fort était établie à 1 273 $.
Si des gens qui font un home invasion vont à un endroit parce qu'ils savent qu'il y a un coffre-fort avec des valeurs dedans, ils vont s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui va rouvrir le coffre-fort parce qu'on ne peut pas se promener avec un camion de déménagement pour promener un objet de plusieurs centaines de livres.
Les policiers doutent de plus en plus de l'honnêteté de Patrice Nadeau. Des soupçons confirmés également par l'entourage de la victime.
Il y avait des formations de la famille, qu'il y avait des chicanes entre les deux, puis qu'elle avait songé de le quitter.
Tous deux étaient âgés environ de 25 ans. Ils étaient mariés depuis environ 6 ans. L'épouse voulait se rapprocher de ses parents, voulait vendre la maison, ce que Patrice n'endossait pas du tout. Patrice avait des dettes également, des prêts personnels. Il y avait encore une hypothèque sur la maison. Alors, c'était souvent un sujet de dispute entre les deux.
Après le drame, Patrice Nadeau reprend son boulot à l'imprimerie pendant que l'enquête suit son cours. Les policiers décident de lui rendre visite afin de lui faire une proposition.
On s'est rendu à son travail. Après discussion avec lui, on l'a informé que même dans les journaux, les gens le soupçonnaient, même dans les voisins, les compagnons de travail aussi, et que la seule façon de lever sa réputation était d'accepter de passer un test de polygraphie.
Les enquêteurs l'ont approché. Il avait une belle attitude avec les enquêteurs, très coopérative avec les enquêteurs. On se posait des questions parce qu'il avait pas l'attitude d'une personne qui voulait cacher quelque chose. Fait qu'on lui a offert le polygraphe.
Nadeau accepte de passer le test du polygraphe, laissant croire aux policiers qu'ils se sont peut-être trompés sur son compte. Toutefois, dans l'entourage du couple, quelqu'un d'autre éveille les soupçons des enquêteurs.
Il me dit non, c'est pas ça, donc je suis pas apte au test. Il commence à se détacher.
Le corps de France Caron, 25 ans, est retrouvé chez elle au bas de l'escalier du sous-sol. Un coffre-fort déplacé laisse croire qu'un voleur se serait introduit dans la résidence, mais les enquêteurs doutent que ce soit réellement le mobile du meurtre. Tandis qu'on interroge le mari de la victime, un autre suspect fait surface.
Il y avait des éléments qui tentaient à démontrer que l'ancien chambreur qui était là, qui était un individu criminalisé, pourrait être impliqué dans ça.
L'ancien locataire du couple sait bien que les policiers le cibleront tôt ou tard à cause de son passé criminel. Il est prêt à passer le test du polygraphe pour prouver son innocence.
Il a pas fait ni un ni deux. Il a pris le téléphone, il a appelé la police. Il a dit, écoutez, c'est moi l'ancien chambreur. J'étais pas là, là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Puis je suis prêt à passer le polygraphe n'importe quand. Dites-moi où quand je vais être là.
On a proposé de le passer au polygraphe. Mais les enquêteurs, ce qu'ils ont décidé de faire, avec raison, ils ont vérifié l'alibi. C'était un alibi blindé. Autrement dit, c'était réellement là. Il était réellement ailleurs, il n'aurait pas pu faire ça. Donc, on l'a remercié pour sa coopération, parce que ça l'a effectivement sauvé bien du temps.
Ce suspect écarté, les enquêteurs se concentrent désormais sur le conjoint de France Caron. Pour écarter tout soupçon, il doit passer un test polygraphique avec John Galianos.
Tout nos soupçons nous conduisait vers Patrice Nadeau. Nous n'avions pas d'aveu de Patrice, nous n'avions pas d'arme du crime, donc nous ne pouvions pas l'accuser et le mettre en état d'arrestation.
Lors de son transport vers Montréal pour y subir son test polygraphique, l'attitude particulièrement calme de Patrice Nadeau laisse croire aux enquêteurs qu'il n'a rien à se reprocher et qu'ils suivent peut-être une mauvaise piste.
Patrice Nadeau nous semblait très détendu, rendu vers Drummondville. Lui avons offert s'il voulait prendre un repas, ce qu'il a accepté. Après avoir pris un repas, nous avons continué la route vers Montréal. Mon collègue et moi, nous avons jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'apercevoir que notre suspect à l'ordre somnolait. Alors, ça nous a dérangé un petit peu. On s'est dit peut-être qu'on perd notre temps.
Patrice Nadeau arrive confiant au bureau de John Galianos. Tout comme les policiers, le polygraphiste est étonné de son aplomb.
Très crédible, parle, puis content d'être là. Un petit peu trop content encore. Il veut passer le test pour démontrer qu'il n'y a rien à faire au meurtre de France Caron Nadeau.
Comme toujours, John Galianos débute par des questions sur la condition physique du sujet et immédiatement, il remarque quelque chose d'étrange.
C'est un jeune homme de 25-26 ans, mince, qui semblait en très bonne forme physique. Et lorsque je lui demandais des questions sur sa santé, je trouvais des bobos.
Au fil de l'interrogatoire, Patrice Nadeau avoue que le cœur lui débat. Il croit avoir des problèmes cardiaques.
Puis c'est fait quelques personnes qui me disent ça. Le cœur me fait bing, bang, boom. Ta mère, es-tu au courant? Non. Ton frère, es-tu au courant? Non. Pourquoi pas? Mais non, ça va tuer ma mère ça, si elle pense ça, que j'ai eu des problèmes cardiaques. OK, comment il s'appelle ton médecin? Jean, j'ai pas confiance à ça, le médecin. Qui est au courant? Mais France qui est au courant. Donc, France est décédée. À part d'elle, y a-tu quelqu'un d'autre qui peut dire que c'est vrai, ça? Non. Ce que j'interprétais, c'est qu'il est en train de me dire, je suis pas capable de dire, moi, que je veux pas prendre le test. Mais j'aimerais ça que toi, comme expert, tu me dises que je suis pas un bon candidat pour le test. Donc, va-t'en chez vous.
Croyant faire face à quelqu'un qui veut cacher de l'information, John Galianos procède à un test de vérification. Le test est simple. Patrice Nadeau pige une carte et John Galianos tente d'en deviner le numéro en se fiant uniquement au polygraphe. S'il ne trouve pas la bonne réponse, cela signifie que le sujet ne sera pas apte à subir un interrogatoire en bonne et due forme.
Ce qu'il me dit, c'est que quand j'ai dit que c'était bel et bien ajustable à l'appareil, la carte choisie, c'est la carte selon le graphique. Si c'est la carte numéro, on va dire 6. Il me dit non, c'est pas ça, donc je suis pas apte au test. Puis, comment ça se détacher? Je me souviens comme c'était hier.
John Galianos convainc Patrice Nadeau de répéter l'exercice avec une nouvelle carte. Pour éviter toute ambiguïté, le polygraphiste demande au suspect de la glisser sous sa cuisse plutôt que de la remettre dans le paquet.
Donc, on fait le test de nouveau. Vous choisissez tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro. C'était bel et bien ajustable à l'appareil. Patrice, la carte choisie, c'est la carte numéro, on va dire 4. Faut pas dire non. Il peut plus se détacher, là. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai le graphique. Il sait que la carte est en dessous de sa cuisse. Bon, montre-moi donc ta carte. Ah, bon, c'est bien ça.
Patrice Nadeau remet la carte à John Galianos. C'était bien le numéro 4. L'homme ne semble plus aussi heureux de pouvoir prouver son innocence. Il a plutôt l'air abattu.
Lorsque j'ai trouvé son numéro, j'étais très déçu. Très, très, très déçu. La personne qui est véridique est contente. Bon, ils vont savoir que c'est pas moi, ils vont enlever un nuage. Là, j'ai vu dans son visage d'acteur, il peut plus acter, là. Là, il a réalisé, là, qu'il était fait. Qu'il était fait dans le sens suivant que, oh, comment, je vais être obligé de passer le test.
Le droit de garder le silence est un des droits absolus dans le droit canadien. Et c'est extrêmement important. Surtout lorsqu'on est accusé d'un crime particulièrement sérieux, de garder le silence.
Patrice Nadeau est contrarié, mais il accepte de poursuivre l'interrogatoire. Le polygraphiste y va d'une approche particulière. Il lui propose de dresser lui-même la liste des questions qu'il aimerait qu'on lui pose. Nadeau suggère qu'on lui demande s'il a aimé France Caron et s'il était au travail lorsqu'il a su qu'elle était décédée.
C'est pas ça, les bonnes questions. Les bonnes questions d'une personne innocente, c'est... J'espère qu'elle va me demander, M. Galianos, si c'est moi qui l'ai poignardé. J'espère qu'elle va me demander si c'est moi qui a causé sa mort. J'espère qu'elle va me demander si j'ai fait quoi que ce soit que pour causer la mort. Soit que j'ai demandé à quelqu'un de le faire, d'être impliqué directement ou indirectement, monsieur. J'espère qu'elle va me demander si j'ai dit toute la vérité aux enquêteurs concernant ça. Ça, c'est les réactions d'une personne véridique.
Suite à cet exercice, John Galianos questionne Nadeau sur l'assassinat. Il observe beaucoup d'activités sur le polygraphe qui calcule les variations du rythme cardiaque, de la pression, de la sudation et de la respiration du suspect.
Je voyais des réactions spécifiques et constantes aux questions pertinentes posées lors des preuves. Questions telles que « Avez-vous personnellement causé la mort de France Caron Nadeau? » Êtes-vous la personne qui a poignardé France Caron Nadeau? » Mais vous m'avez raconté toute la vérité concernant les circonstances de la mort de France Caron Nadeau. Des réactions partout.
Après l'interrogatoire, John Galianos n'a plus aucun doute. Il informe Patrice Nadeau qu'il a échoué le test du polygraphe.
C'est drôle à dire, mais plus grave qu'est le crime, plus facile la confession.
En août 1978, Patrice Nadeau se soumet à un test polygraphique pour prouver qu'il n'est pas impliqué dans le meurtre de son épouse, France Caron. Après l'interrogatoire, John Galianos informe Patrice Nadeau qu'il a échoué le test du polygraphe. Patrice Nadeau confirme aux policiers avoir tué France Caron après une dispute au sujet de la vente de leur maison, mais il plaide la légitime défense.
Il fait une première version verbale, soi-disant que le matin, il a quitté son épouse, mais avant de quitter, il s'était disputé avec elle. Il dit même de l'avoir giflé. Et à un moment donné, en se rendant au sous-sol, en se retournant, il a vu son épouse, à un moment donné, s'approcher vers lui avec un couteau dans les mains. En voulant éviter le coup de couteau, il a frappé sa femme à la hauteur de la poitrine. Interrogé sur le deuxième coup de couteau, il ne peut nous l'expliquer.
Lorsqu'il y a aveu délictuel, à ce moment-là, on va assister à quelques manifestations particulières. C'est vrai que je l'ai fait, c'est vrai que c'est moi qui l'ai tué, mais c'est un accident. J'ai pas voulu la tuer. Le couteau est arrivé comme par hasard. Elle s'est défendue. Et à l'entendre, on a comme l'impression que c'est elle, la victime, qui se serait poignardée à la limite, là, hein, en poussant un peu. Et cette rationalisation cherche finalement à s'excuser pour le geste qu'il a commis. Hein. Ça permet aussi d'échapper à la culpabilité inhérente, là, un délit semblable.
La confession de Patrice Nadeau concorde mal avec plusieurs éléments de l'enquête. Sa description des événements laisse davantage croire à un meurtre maquillé qu'à de la légitime défense.
Ça ne tente pas d'aller en prison pour ça. Il sait qu'il va faire du temps, s'il va dire même on s'est chicané puis je l'ai poignardé. Donc, il se monte un scénario. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il déplace le coffre-fort pour laisser sous-entendre que c'est un vol. Quelqu'un qui est venu voler, qui a mal tourné.
Certains types de délits sont commis par ce qu'on appelle des délinquants accidentels. Mais quand on les met en face de la violence utilisée, du processus post-délictuel, pour la plupart, ils en arrivent à avouer que ce processus-là a déjà mûri dans leur esprit. Alors, on croit à un processus magique, juste à se débarrasser du corps, on élimine les traces, on chasse les empreintes. Mais parce que le délit commis est tellement étranger à leurs valeurs, ce genre d'individus deviennent très maladroits dans l'exécution post-délictuelle. Il y a des failles dans leur élaboration et c'est ce qui va les emmener à leur perdition.
Pour éviter de répondre de son crime, l'homme était prêt à tout, même d'impliquer son jeune garçon de 3 ans dans le scénario sordide servant à le disculper.
Il se rend à son travail où il y a plusieurs personnes à l'endroit, puis il joue le rôle. Enfin, puis assez que les gens le croyaient. Il discute avec son chum, trouve une raison pour appeler chez eux, parce qu'il sait quand même son garçon est là.
C'est son fils qui répond lorsqu'il appelle, parce que lui, il veut passer comme étant le pauvre mari éploré. Alors, il appelle à la maison devant ses amis au travail pour se constituer un alibi. Puis là, il joue son rôle là, de « passe-moi ta main », puis là, tu sais, il éclate en sanglots, le pauvre gars, la pauvre victime, tout ça, alors que c'est lui.
Les enquêteurs convainquent Patrice Nadeau de leur révéler l'endroit où il a caché le couteau. Il les guide vers un petit bois près de son travail.
Après avoir marché ici et là, c'est lui-même, Patrice Nadeau, qui a fait la découverte du couteau en question, qui est un couteau de chasse, dont la lame avait environ 5 pouces de long. Ce couteau-là a été présenté lors de l'enquête du coroner, de l'enquête préliminaire, et plus particulièrement au procès aux assises criminelles devant un jury.
Toutefois, au tribunal, la défense remet en question l'admissibilité de certaines confessions obtenues par John Galianos. Ce dernier aurait laissé entendre à l'accusé qu'en avouant, il permettrait à la société d'économiser beaucoup d'argent.
Les enquêteurs sont évidemment formés pour soutirer une déclaration incriminante. Et ils ont le droit d'utiliser plusieurs méthodes pour le faire, que ce soit un sentiment de culpabilité de l'accusé. Ils peuvent mentir carrément. Ils font croire à l'accusé qu'ils ont déjà toute la preuve nécessaire pour le trouver coupable et qu'en fin de compte, c'est tout à fait faux. Et ce sont toutes des techniques qui sont acceptées et acceptables par la Cour pour soutirer une déclaration incriminante.
Une déclaration, pour qu'elle soit admissible en première cour, il faut que tu l'obtiennes sans promesse ni menace. Autrement dit, pas de coup de pied, pas de crème en glace.
La Cour confirme que l'interrogatoire de John Galianos respectait la loi. Pour le meurtre de son épouse, Nado est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans.
Le polygraphe, dans cette enquête-là, a été d'une très grande utilité. Comme on dit dans le métier, le fait de déboucher l'enquête à ce moment-là.
C'est drôle à dire, mais plus grave qu'il crime, plus facile la confession.
L'assassin Patrice Nado ne sortira jamais de prison. Il connaîtra la même fin tragique que son épouse. Il mourra poignardé par un co-détenu.
Ils disent qu'il vit par l'épée, meurt par l'épée. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Mais dans ces circonstances-là, oui. C'est malheureux pour sa famille. C'est très... J'ai de la peine pour... parce qu'il y a sûrement... Il y avait 25, 26, 27 ans. Sûrement, j'ai de la peine, moi, pour sa mère qui l'a mis au monde, son père qui l'a élevé. S'il y a des frères et des sœurs, je l'ignore. Mais dans tout ça, également, j'ai de la peine pour la famille de France Coronado.